Radio Kapi. Oh, Kapi.
Des combats opposent depuis tôt ce vendredi à Tchengerero l'armée congolaise aux rebelles du M23. C'est à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Bunagana, dans le Nord Kivu. Les FARDC ont fait un repli stratégique, indiquent des sources militaires. Début de la campagne de vaccination contre la rougeole, c'est vendredi dans la zone de santé de Vanga, province du Kwilu. Près de 60 000 enfants sont attendus durant 5 jours. Le Kwilu compte plus de 200 cas de rougeole, dont plus de 52 à Vanga. Notre invité, c'est le professeur Ngoï Tshibambe, expert en relations internationales. Il va commenter la visite du couple royal belge en RDC qui a pris fin lundi à Lubumbashi. Bonsoir à tous. Cette édition part du Nord Kivu. La situation demeure tendue jusque ce soir dans le groupement Djomba, territoire de Rutshuru. Des combats ont opposé depuis 3h du matin les FARDC au M23 dans la région de Tchengerero, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Bunagana. D'après des sources militaires, l'armée a fait un repli stratégique. Reportage de Gisèle Cage, rendu par Noëlla Luzitu.
À l'issue de ces affrontements tôt ce vendredi à Tchengerero, les FARDC ont effectué un repli stratégique de certaines de leurs positions. C'est notamment à Tchengerero, Bugusa, Kabindi et Rangira, des localités situées à quelques kilomètres à l'ouest de Bunagana, indiquent des sources militaires et civiles dans le territoire de Rutshuru. Ces localités sont désormais occupées par le M23, à en croire les mêmes sources. Elles précisent que les rebelles du M23 ont en effet contourné les positions des FARDC en passant par le groupement de Busanza au nord de Bunagana pour déboucher vers Kabindi avant d'attaquer la position de l'armée à Tchengerero, une dizaine de kilomètres à l'est du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Les responsables militaires au Nord Kivu se sont gardés de tout commentaire sur la situation. Le porte-parole du gouverneur a tout simplement dit attendre l'ordre de sa hiérarchie pour pouvoir communiquer à ce sujet. Toutefois, d'autres sources dans l'armée indiquent que les FARDC concentrent leurs efforts pour protéger Rutshuru centre d'une imminente attaque des rebelles.
Plusieurs sources locales confirment que le M23 a abattu un hélicoptère de combat de l'armée congolaise. Fusillade à la petite barrière ce matin à Goma. La dépouille du militaire FARDC, auteur de l'incident, a été récupérée par la délégation constituée des experts du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL et des officiels congolais. Elle a été placée à la morgue de l'hôpital militaire de Goma. Concernant le bilan, dans un communiqué, l'armée rwandaise indique que seuls deux de ses soldats ont été blessés. Uniquement le tireur est décédé après avoir été abattu par un militaire rwandais en situation de légitime défense, précise le communiqué. Restons au Nord Kivu, où une dizaine d'organisations de la société civile environnementale se disent inquiètes pour la survie des gorilles de montagne du secteur Mikeno du parc national des Virunga. Dans un communiqué de presse rendu public hier jeudi, ces organisations déplorent que ces sanctuaires soient devenus une zone de combat qui oppose l'armée congolaise aux rebelles du M23, estimant que cette zone de combat menace la survie de l'unique population de gorilles au monde et son habitat. Demande aux chefs d'État rwandais et congolais de démilitariser cette zone. Bantou Lukambo, leur porte-parole, le dit au micro de Bernard Danyangi.
Nous craignons qu'il y ait risque d'extinction à cause de ces affrontements, puisqu'il y a des bombes qui sont larguées des deux côtés et les gorilles sont là sans protection aucune. Et à part ça, nous craignons qu'il y ait risque de contamination, puisque pour le moment, il y a l'Ebola, le Covid-19, les varioles des singes. Avec le campement des belligérants dans l'habitat des gorilles, il y a risque que nous assistons à l'extinction. C'est ainsi que nous avions écrit aux deux chefs de l'État, les chefs de l'État rwandais et congolais, pour qu'ils puissent voir comment protéger ces gorilles. Nous, on voulait c'est que l'on puisse voir comment dialoguer et que la zone soit démilitarisée et laisser aux mains des gardes parcs de ces deux pays et aussi convaincre la communauté internationale pour qu'ils puissent aussi voir comment protéger cette espèce phare, puisque les gorilles de montagne, c'est une espèce que la communauté internationale et les deux pays ont vraiment protégée et c'est pourquoi nous demandons à ce que vraiment la zone soit démilitarisée.
Rappelons que c'est depuis fin 2017 que l'activisme des présumés M23 est signalé dans cette zone du parc national des Virunga avant de s'intensifier en fin mars cette année. Dans la province du Maniema, c'est depuis hier jeudi que le gouverneur intérimaire Fanny Idrissa Mangala a lancé à Kindu l'opération de mise à jour du fichier provincial des armes à feu de chasse, de sport et des protections individuelles. Cette décision de l'autorité provinciale vise à maîtriser la circulation des armes dans la province. Florence Kizalunga nous en parle.
Dans son communiqué du 14 juin dernier, le gouverneur intérimaire s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la région. Aussi, cette identification va générer les recettes provinciales, nous dit Marcel Lembalemba, commissaire provincial en charge de l'intérieur.
Nous devons identifier toutes les armes à feu qui circulent, qui sont détenues par la population. Parce que cette identification génère les recettes provinciales. Parce que dans notre budget, on a prévu comme acte générateur de recettes l'identification des armes. Et voilà ce qui a poussé également l'autorité, non seulement la sécurité, mais également en procédant à l'identification, le gouvernement provincial aura à titre de recettes par rapport à cette activité.
Ce dernier fait savoir que cette mesure concerne aussi les tenanciers des maisons de gardiennage.
Et deuxièmement, les tenanciers des maisons de gardiennage. En tout cas, ils sont priés de pouvoir passer devant les services pour faire enregistrer leur maison de gardiennage. Vous ne pouvez pas détenir une maison de gardiennage parce qu'à son sein, il y a des hommes qui sont armés. Tous ces hommes-là, nous devons les connaître. Et après leur identification, vous saurez comment fonctionner.
Sachez qu'un moratoire de 14 jours est accordé à tous les détenteurs d'armes pour se faire enregistrer. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Okapi.
La deuxième vague de transfert des enfants délinquants en rupture de lien familial, communément appelée Kuluna ou Shege, a eu lieu hier jeudi à Lubumbashi, à destination de Kanyama-Kasese, dont la province du Olomami. Ils vont rejoindre les autres qui avaient été arrêtés dans les mêmes conditions et qui apprennent des métiers pour être utiles à la société. Ceux qui ont été arrêtés par erreur, confondus au Kuluna, ont été libérés. Jean Gandou.
Ces enfants qui ont été ramassés à Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa étaient environ 600. Parmi eux, les adultes et les mineurs. Ils étaient tous rassemblés au centre de formation de la police de la Kassapa avant leur départ. 320 adultes ont reçu chacun son uniforme et une casquette de couleur bleue ainsi que des bottes de couleur jaune de main du général Kasongo Kabuit, responsable du centre de Kanyama-Kasese. Les mineurs, plus de 150, ont été conduits au centre de Lukuni, situé à une trentaine de kilomètres de Lubumbashi, où ils ont retrouvé leurs semblables, encadrés avec l'appui du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les autres arrêtés par erreur ont été libérés après loterie. L'objectif est de débarrasser la province du Haut-Katanga de ce que d'aucuns appellent bombe à retardement. Certains parents présents à cette manifestation n'ont pas pu retenir leurs larmes. Et au général Kasongo Kabuit de préciser.
Les parents qui font semblant de pleurer parce que leurs enfants sont en train de partir. Mais pourquoi ils pleurent? Plusieurs de ces parents savaient que leurs enfants étaient des criminels, que leurs enfants étaient les enfants de la rue. Nous avons témoignage dans cette ville.
Que deviendront alors ceux qui ont fui la ville de Lubumbashi et qui se sont réfugiés ailleurs?
Nous allons le poursuivre à Kolwezi, à Fungurume, à Tenke, à Kakanda, partout. Nous allons le ramasser et voir à la Kanyama-Kasese.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au chapitre santé, début ce vendredi de la campagne de vaccination de riposte contre l'épidémie de la rougeole dans la zone de santé de Vanga, province du Kwilu. Près de 60 000 enfants de 6 à 59 mois sont attendus pour être vaccinés dans des sites de vaccination. Le ministre provincial de la Santé du Kwilu indique que cette campagne de 5 jours se réalise grâce à l'appui financier et technique de l'OMS et de l'UNICEF pour riposter contre l'épidémie de la rougeole qui sévit dans cette partie du pays. Docteur Benamoutoui appelle les parents à faire vacciner tous les enfants concernés afin de les protéger. Il est au micro de Irène Boma.
La riposte, ce sont des enfants d'ici à 59 mois. Donc, nous attendons 59 020 enfants qui seront vaccinés contre le rougeole. La campagne va prendre 5 jours planifiés et puis une journée de ratissage. Je demande aux parents d'aller mener les enfants au site de vaccination pour les protéger contre l'épidémie de rougeole. Vacciner les enfants, c'est les protéger. Que tous les enfants soient vaccinés, ça nous permettra à mettre fin à cette épidémie et à arrêter sa propagation dans les autres zones de santé. La campagne, la riposte concerne uniquement la zone de santé de Vanga, mais nous avons fait un plaidoyer auprès des partenaires financiers parce que nous-mêmes nous pensons déjà qu'il faudra étendre la riposte. La zone de santé de Boulongo déjà compte 152 enfants et c'est cas confirmé. Il y a aussi les zones de santé voisines. Bon, riposter seulement dans la zone de santé de Vanga alors que la maladie s'est déjà propagée dans les zones voisines, ce serait une action sans résultat. Les cas confirmés ont été dépistés avant dans la zone de santé de Vanga. Dans la zone de santé de Boulongo.
Signalons que dans l'ensemble, la province du Kulu compte à présent plus de 200 cas de rougeole, dont plus de 52 dans la zone de santé de Vanga. Le premier cas confirmé y a été enregistré, ce qui justifie le début de la riposte d'abord dans la dite zone de santé. Plus de 1500 personnes, dont des enfants mineurs ainsi que des femmes enceintes qui travaillent dans des sites miniers à Mambanga, dans les territoires de Mahagi, ont été sensibilisées jeudi au risque d'utilisation des produits chimiques dans des puits d'or. Cette campagne est organisée dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfant africain, célébrée le 16 juin de chaque année. Selon le coordonnateur de l'Association des personnes victimes des troubles déplacés et vulnérables de l'Est, le but de cette action est de pousser les autorités à prendre des dispositions pour réduire la présence des enfants dans les sites miniers. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Selon le coordonnateur de cette organisation locale qui milite pour l'encadrement des personnes victimes des troubles, le nombre des déplacés et des vulnérables ne cesse de croître dans plusieurs sites miniers. Cela à cause du contexte actuel d'insécurité qui a paupérisé la population. C'est par exemple dans le territoire de Djougou et de Mahagi où son organisation affirme avoir répertorié plus de 1500 personnes, dont des femmes enceintes. Le but de cette initiative est d'informer les occupants de ces sites miniers, notamment des enfants, sur les dangers d'utiliser des produits chimiques, affirme Innocent Losigo. Il recommande aux autorités d'accélérer le processus de paix initié par le chef de l'État pour permettre à ses enfants de reprendre la vie normale.
Dans des carrières, les enfants utilisent juste des produits chimiques. Alors, ils sont exposés au danger. Nous avions fait l'identification, c'est au-delà de 1500. Les enfants déplacés, les enfants orphelins, tous se sont livrés dans des carrières minées où ils sont exploités. Alors, c'est ce qui nous a poussé à faire une petite sensibilisation.
Signalons que la ville de Bounia compte environ 9000 enfants victimes des atrocités des groupes armés qui errent au centre-ville, selon des rapports des organisations qui militent pour la protection des droits de l'enfant. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Maniema où une vive tension a été observée hier à Kalima entre les motards et les revendeurs de carburant, communément appelés Kadhafi. À la base, la majoration du prix du carburant par ces derniers, un litre qui s'achetait à 4500 francs congolais est passé hier à 6000 francs. Conséquence, ce vendredi, les motards n'ont pas travaillé, perturbant ainsi les déplacements de la population de cette entité malgré l'appel au calme de l'autorité municipale. Florence Kizalunga, reportage.
Dans cette affaire, les motards accusent les Kadhafi de fixer les prix unilatérales sans respecter la loi en la matière. Moutou Zakabe appelle à l'arbitrage des autorités communales.
C'est l'économie qui a plein droit de fixer les prix. Nous avons Didier, il vend ses carburants aux 5000 francs congolais. Mais chose regrettable, Kachelewa a assigné ses messieurs à la justice. Et c'est pourquoi les motards, ils se sont décidés aujourd'hui qu'ils ne travaillent pas. Ils font grève maintenant.
De son côté, le président de l'association des vendeurs de carburant à Pangui parle de l'imposition des prix par les services de l'économie. Pour lui, ces services leur exigent de vendre au prix acheté à Kindu à Kisangani. Kachelewa Mutubi souligne que son association va continuer à garder leurs produits dans les dépôts jusqu'à ce que leurs revendications trouvent une solution favorable. Les bourgmestres demandent que les carburants soient vendus d'abord à 5000 francs. Kikobia Fataki.
Les Kadhafi ne doivent pas aller au-dessus de la loi, puisque c'est le ministère de l'économie dans ses attributions qui fixe les prix, même les marchandises. Les services de l'économie doivent fixer les prix d'un litre à 5000 francs d'abord pour le moment.
Signalons que les prix de la course simple passent de 1000 francs à 2500 francs. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Corne de l'Afrique connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans. Plus de 18 millions de personnes se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire aiguë après une quatrième saison des pluies sèches en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. Plus de 7 millions de têtes de bétail en ont déjà fait les frais. En Éthiopie, le Programme alimentaire mondial, rapporté RFI, ne peut assister que la moitié de 7 millions d'individus touchés par la sécheresse, auxquels il faut ajouter les victimes de la guerre civile, a précisé le directeur du PAM en visite dans le pays. La France ne reçoit plus aucun gaz russe par gazoduc. Le gestionnaire du réseau français de transport de gaz a annoncé ce vendredi ne plus recevoir de gaz russe par gazoduc depuis mercredi dernier, avec l'interruption du flux physique entre la France et l'Allemagne, rapporte l'AFP.
L'invité.
Le couple royal belge a quitté la RDC par la ville de Lubumbashi depuis lundi dernier. Le roi Philippe et toute sa délégation ont mené plusieurs activités dans le Haut-Katanga et le Sud-Kivu après avoir séjourné à Kinshasa. Pour commenter cette visite, Radio Okapi a approché un expert en relations internationales. Il s'agit du professeur Ngoï Chibambe de l'université de Lubumbashi. Il s'entretient ici avec Jean Gandou.
Professeur Ngoï Chibambe, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le roi Philippe a quitté la ville de Lubumbashi après y avoir séjourné pendant 3 jours. Quel bilan peut établir de sa visite dans cette province?
Il est arrivé pour effectuer une visite à l'école de Belge. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est son accueil à l'université de Lubumbashi. Il nous a livré un message fort adressé à la jeunesse congolaise à partir de l'université de Lubumbashi. Un message qui consiste pratiquement à procéder au réveil de la conscience de la jeunesse congolaise, surtout de la jeunesse étudiante, de manière à ce qu'elle s'assume, qu'elle sache qu'elle est capable de diriger ce pays dans les années à venir pour que la RDC se mette debout. Je retiens une phrase qu'il a dite, et voilà, j'ai voyagé, j'ai traversé Kinshasa pour venir ici. Je me réalise que l'avenir est dans nos mains et que cet avenir dans les mains de la jeunesse peut être un avenir d'espoir pour un futur radieux ici en RDC. Après, il est allé visiter le village Katanga. Je pense que c'est aussi une manière pour lui d'entrer un peu en contact avec le milieu rural.
Qu'est-ce que ce village a de particulier au point d'attirer la présence du roi des Belges?
Dans le passé, je crois à travers la CTB, le gouvernement belge était impliqué à améliorer un peu les conditions de vie d'un village qui avait été choisi, c'était Katanga, où il y avait, je pense, un projet de photovoltaïque, la construction de fontaines pour permettre à la population de ce village-là d'accéder à l'eau dans des conditions de facilitation, quoi. Après que ce programme a été mis en marche, après que ce programme a vu la Belgique s'est retirée, on est allé voir l'après.
Mais professeur, quand on sait qu'en Belgique, le roi règne ne gouverne pas, quel pourrait donc être l'impact de cette visite?
Le roi règne, ne gouverne pas, mais sachez que dans la suite du roi, un, il y a eu le premier ministre, deux, le ministre de la coopération et même le ministre chargé de la politique scientifique. Cet arropage tiré du sérail de l'exécutif belge permet au roi non seulement d'avoir une oreille, mais d'avoir été accompagné de l'œil de l'exécutif qui pourra répercuter dans les politiques du gouvernement certaines attentes, certaines idées du roi.
Vous êtes expert en relations internationales et vous savez très bien que sur ce plan-là, les relations sont fondées sur les intérêts. Et donc, dites-moi, quel est l'intérêt que la RDC avait à recevoir le roi pendant ce temps où, dans l'est du pays, il s'achauffe?
Toute visite peut toujours avoir des dividendes. Ici, à partir de l'amphithéâtre, il a parlé de la situation de l'Est, à laquelle il va demander à son gouvernement de ne pas être trop aveugle. Il est allé à Bukavu rencontrer le docteur Mukwege. Mukwege a transmis un message clair. Il a cité le Rwanda comme étant impliqué dans ce que je peux appeler l'instabilisation et l'instabilité chronique à l'Est. Mais c'est déjà un message fort. Je crois que ce pourquoi il est arrivé peut avoir une incidence positive pour nous, en ce que on verra comment Belgique peut réarranger sa posture et s'impliquer pour jouer un rôle en ce qui concerne la mobilisation de la communauté internationale sur ce qui se passe à l'Est.
La Belgique en elle-même, qu'est-ce qu'elle gagnerait de cette visite?
Dans le discours du roi, il a beaucoup insisté sur les nouveaux créneaux, notamment la fabrication de batteries électriques qui implique l'exploitation de lithium, etc., etc. Alors, j'ai appris que la Belgique voudrait aussi voir comment se réinsérer dans l'exploitation de ces matières premières stratégiques, de sorte à ce que les investisseurs belges soient présents. Mais je pense que c'est un chapitre qu'on peut ouvrir, sur lequel on peut continuer à faire des recherches. Parce que, entre nous soit dit, comme le roi de Belgique est venu ici, accompagné de son premier ministre, s'il y a certaines choses sur lesquelles ils se sont parlé avec le gouvernement, ce n'est pas à moi de les révéler. Mais il est possible que la Belgique ne soit pas indifférente à ce nouvel espace où l'université de Lubumbashi est impliquée dans la création des centres de recherche avancée, dans la fabrication de batteries électriques. Il est possible que la Belgique veuille se mettre tout près de la porte pour entrer et aussi être partie prenante dans ce projet. Et du reste, sachez que le projet de ce centre pour la fabrication de batteries électriques est aussi accompagné par l'Union européenne. Donc en cela, la Belgique peut ne pas être très loin.
Professeur Ngoï Chibambe, je vous remercie.
Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivie.